Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord. Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, mais qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour et bienvenue à Cinérama, émission de cinéma. Il y aura du bon et du moins bon, et en tout cas un blind test aujourd'hui, un blind test spécial Danny Boyle. Et puis sinon, eh bien pour le reste, bonjour Marine, de quoi tu vas nous parler ?
Bonjour à tous, alors moi je vais vous parler de Joséphine Sarondi, un film de et avec Marie-Lou Berry, et puis une seconde comédie française, enfin si j'ai le temps à la fin, ça sera le nouveau film avec Kev Adams, Ami Public.
Et puis toi Manu ?
Eh bien, je vais vous parler de El Clan, un film argentin, et puis des délices de Tokyo de Naomi Kawase.
Et puis les diaboliques, ce sera pour une autre fois.
C'est l'arlésienne.
Voilà, c'est l'arlésienne, effectivement, de Cinérama. Et puis un dernier film, ce sera une comédie. Alors, une de ces comédies, eh bien, comme il y en a rarement, c'est une comédie roumaine, c'est Le Trésor, mais on débute avec El Clan.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Début des années 80, hein, je crois qu'en 1983 d'ailleurs, après 7 ans de dictature sous Pinochet, l'Argentine devient une démocratie sous la direction de Galtieri. L'adage selon laquelle la famille est un monstre prend ici un sens que je ne qualifierais pas de savoureux, mais de réellement inquiétant dans El Clan. La première surprise de ce film réalisé par un des chefs de file du renouveau du cinéma argentin est de se baser sur une histoire vraie complètement démente. Alors un clan sous la domination d'un père de famille, exemplaire en apparence, va kidnapper, séquestrer et assassiner en toute impunité une série de personnes fournies, plus que choisies par Alejandro, le fils aîné, véritable star locale du rugby. Alors par sa popularité, son physique de beau gosse et la sympathie immédiate qu'il provoque, il est protégé de tout soupçon. Alors idem pour la famille qui reflète un microcosme idéal. La mère est prof et les filles sont de parfaits enfants modèles, hein, ce qui rend la situation encore plus effrayante. Alors d'autant que le contexte est assez flou au début, on ne comprend pas trop dans quelle mesure le père agit ainsi, quel rôle il joue et a joué pendant la dictature. On saisit vaguement, mais au bout d'un certain temps, qu'il fut un informateur et certainement, mais ce fait quand même suggérer, un tortionnaire. Inquiet par la démocratie, il s'est recyclé en pur malfrat pour subvenir à ses besoins et surtout à ceux de ses proches, justifiant ainsi des actes ignobles. Alors, la manière dont sont décrits et filmés les kidnappings laisse assez pantois. Ils sont exécutés avec un certain amateurisme qui laisse une impression assez effarante. Guillermo Francella, hein, que l'on avait pu croiser dans l'intéressant dans ses yeux, incarne en fait ce père, hein, qui est absolument vraiment terrifiant. Enfin, il s'appelle Archimedes. Il est génial.
Un vrai méchant, alors.
Ah oui, c'est un vrai méchant, très froid, très calculateur, le bon père de famille qui protège tout le monde. Et à côté, il devient une sorte de monstre. Enfin, c'est vraiment le personnage le plus intéressant du film. Et d'ailleurs, il occulte les autres personnages de la famille qui sont par contre pas très fouillés sur le plan psychologique. Alors, Pablo Trapero, hein, qui continue sur sa lancée après l'excellent 40 shows et inscrit son nouveau film au cœur du cinéma de genre, donc le thriller, sous la haute influence du Scorsese des Affranchis. Alors si le récit est assez nerveux pour maintenir l'intérêt, les comédiens remarquablement dirigés, la mise en scène, elle paraît quand même un peu étriquée et lorsqu'elle s'emballe, elle flirte avec les facilités esthétiques justement d'un Danny Boyle. Alors en témoigne cette séquence un peu grossière où le cinéaste filme en parallèle le premier orgasme du fils aîné avec le meurtre commis par le père, pour une jonction un peu facile des pulsions de vie et de mort. Alors l'emploi très scorsésien aussi d'une bande-son qui a tout du jukebox finit aussi par agacer, même si les morceaux sont excellents. L'omniprésence de la musique indique surtout l'impuissance de générer une forme visuelle et dramatique qui suffirait à elle-même. Alors pourtant le film n'est pas avare en séquences choc, hein, que je ne dévoilerai pas. En particulier un épilogue particulièrement brutal sur le Sunny Afternoon des Kinks, hein, qui ouvre et clôt le film. Alors on écoute un petit extrait.
Taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon, and I can't sail my yacht. He's taken everything I got.
El Clan bon, est un thriller efficace, hein, confus sur le plan politique, hein, pour qui n'est pas au fait des événements, mais pensé pour le marché international. Alors le film fonctionne un peu trop comme une carte de visite pour le cinéaste que l'on risque, là j'en fais le pari, de retrouver sur une production hollywoodienne dans très peu de temps. Hein. L'efficacité est au rendez-vous, le sujet est très fort, mais à mon avis il manque un regard, un vrai point de vue sur les personnages qui placerait le film au niveau de ses modèles, et notamment un film auquel j'ai pensé, même si le sujet est différent, c'est à, je crois que c'était American Kingdom. Un film australien.
Ah oui,
en fait,
australien, hein. Oui, oui.
Voilà, c'est ça, c'est American Kingdom. Oui, voilà, ça. Et j'avais trouvé que ce film, il est assez proche de El Clan, mais inférieur, parce que je trouve qu'il y avait une dimension beaucoup plus forte dans le film de l'australien, en fait, que dans celui-ci qui ressemble beaucoup à du Scorsese, mais en moins bien. La mise en scène est quand même assez pauvre.
Eh bien, en tout cas, El Clan, c'est sorti dans les salles le 10 février, tout comme eh bien, le prochain film dont tu vas nous parler, Marine, c'est le
Joséphine
film de...
Sarandi.
Voilà.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Marie-Lou Berry réalise elle-même ce nouvel épisode des aventures de Joséphine, le personnage qu'il a révélé au grand public. Alors, je n'ai pas pu voir le premier Joséphine, hein, donc voilà, c'est compliqué pour moi de comparer les deux. Bon, en même temps, ça va, j'ai quand même vu pas mal de comédies françaises compliquées à supporter ce mois-ci. Donc, pour vous faire un court résumé, nous avions laissé Joséphine, sympathique, trentenaire, un peu hystérique mais terriblement sympathique, dans les bras de l'homme de sa vie qu'elle avait enfin fini par cueillir au terme de nombreuses péripéties. Alors ce premier volet était une adaptation d'une BD à succès de Pénélope Bagieu, qui est relativement connue pour son humour à la fois incisif et féministe. Le second volet, orphelin de scénario, devait se trouver un pitch intéressant en espérant pouvoir refaire le score en salle du premier épisode. Eh bien, quoi de plus simple que de s'intéresser aux aléas de la grossesse. C'est pas comme si ça n'avait jamais été fait, la grossesse c'est presque l'un des marronniers de la comédie française. Dans Joséphine Sarandi, donc, on exploite à fond le comique de situation. Joséphine se retrouve enceinte de son mec et se voit donc naturellement confrontée à toutes sortes de problèmes. Sa mère qui ne voudra pas l'accepter, ses amis relous, son mec qui se rebelle. Attention, c'est ce que l'on appelle de gros enjeux dramatiques.
Tu es enceinte.
Dis quelque chose.
Piou.
Non mais c'est bon, en fait, dis rien. C'est mieux.
J'ai bien réfléchi, on peut pas.
Je crois que j'ai pas l'instinct maternel.
T'as rien du tout, t'es chier toi.
Putain. Il est plus là.
Si, qu'est-ce qu'il y a?
Si, c'est la couche de gras qui interfère avec la sonde.
Alors vous voulez de la comédie pour trentenaire, vous allez en avoir. Hein. Ça suinte le cliché dans tous les sens. Déjà, Bridget Jones était un personnage insupportable. Alors imaginez un copycat de Bridget Jones en version française avec les gaffes, la cellulite, les interrogations existentielles et la descente compulsive de M&M's. Bah, c'est à vous dégoûter des femmes. Hein. On dirait que le film veut vous faire croire qu'une nana doit être chiante pour être attachante. Alors c'est vraiment pas une comédie à la gloire des filles. Ça vous pousserait presque à en être dégoûté en fait, puisque la seule personne sympa dans le film, bah, c'est son mec. Alors bon, ne soyons quand même pas trop durs, dans l'ensemble, c'est plaisant. Au moins, ça ne croule pas sous les bons sentiments. Ici, on est dans un registre à la fois girly et scatologique. Oui, c'est un audacieux mélange. C'est dans l'ensemble une comédie romantique qui se veut un peu trash, un peu déjantée. Ça ne vous laissera pas un souvenir impérissable, mais ça se laisse regarder. Et puis alors, au final, le plus drôle quand même dans ces nouvelles aventures, ce sont les mères des personnages. Alors, il y a notamment Josiane Balasko, qui est vraiment la mère donc, de Marie-Lou Berry dans la vie et qui interprète ici une mère ultra rigide et ultra catho. Et puis alors, surtout sa belle-mère, qui est interprétée par Victoria Abril et qui campe une sexagénaire hippie ménopausée qui aime peindre toute nue en fumant des joints. Et alors, c'est à elle qu'on doit la meilleure phrase du film, quand elle dit « Au début, on a des convictions, puis on a des enfants, puis on a des bouffées de chaleur ». Enfin, moi, j'ai trouvé ça très drôle. Voilà, c'est la seule phrase drôle du film. Si ça vous fait pas rire, n'allez pas le voir.
C'était le test. Et après le test de Marie-Lou Berry, voici le blind test de Cinérama.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Et nous allons jouer donc à écouter des extraits de la filmographie de Danny Boyle, parce que Danny Boyle, eh bien, il a sorti dernièrement Steve Jobs, dont on a parlé ici. Et c'est un démarrage.
La semaine dernière, oui.
C'est un démarrage un peu compliqué pour Steve Jobs. Alors, il n'a pas forcément eu que des succès, Danny Boyle, mais il en a eu quand même pas mal. Il a fait, je crois, 9 films. On écoute le premier extrait.
Il a commis une erreur.
Qu'est-ce que tu veux dire, Corazon?
Harvey a dit qu'il n'y avait pas assez d'oxygène pour aller jusqu'au point de livraison de la bombe. Mais il y en a assez. Il n'y a pas assez d'oxygène pour aller tous les 6 là-bas.
Est-ce que tu suggères qu'on laisse Trey se suicider?
Non. Et de toute façon, Trey, ce ne serait pas suffisant. Il faut en perdre de plus.
Trois sur sept, ça fait beaucoup de courtes pailles.
C'est un peu angoissant, c'est dans l'espace, c'est trouvé par Marine.
Oui, c'est Sunshine avec Cillian Murphy, cet acteur incroyable.
Mmh. Effectivement, avec ses yeux bleus.
Très étrange, oui. Un peu globuleux et un peu bizarre.
Et après, du coup, il a joué des rôles de méchants aussi, me semble-t-il. Non, tu connais
en
pas
tout cas,
ça
il jouait déjà dans 28 jours plus tard. Et je sais que maintenant, il joue dans une série qui s'appelle Peaky Blinders.
Rôle de méchant dans Red Eye de Wes Craven. Mmh.
Ouais. Allez, c'est la suite du Blind Test.
Oh, j'aimerais juste que tu comprennes que son interprétation dans Le Nom de la Rose, pour ne citer que ça, n'est qu'un petit bip dans une trajectoire ininterrompue qui s'apparente à une chute.
T'oublies les incorruptibles.
Ça n'entre pas en ligne de compte.
Malgré le score d'interprétation.
Ça n'a pas de valeur. C'est un vote de sympathie.
Alors on vieillit, un jour on craque et hop, à dégager.
Ouais.
C'est ça ta théorie.
Ouais. La preuve nous en est fournie tous les jours.
Alors, ça a été trouvé, c'était...
Trainspotting.
Voilà, là ça discutait de cinéma et de vieux acteurs qui finalement ne font plus l'affaire une fois qu'ils vieillissent. Et puis juste après cette scène, eh bien, ils dégomment un chien pour que le chien morde. Enfin voilà, bon, c'est toute la saveur de ce film. Trainspotting qui est sans doute un des plus grands succès de Danny Boyle. Au contraire de celui-ci.
Il y a un corbeau qui passe tous les matins.
Hé hey.
Je l'ai chronométré à 8h17. Je le filmerai pour vous demain. Tous les matins, à 9h30, je reçois 15 minutes de soleil. C'est vraiment génial. J'ai essayé d'ébrécher un peu la pierre. Plus pour me tenir réchauffé qu'autre chose. Je commence à penser que ma main soutient la roche. Alors chaque fois que j'en enlève un petit morceau, elle s'enfonce en fait un peu plus.
Ah, ça en a dégoûté plus d'un quand même, ce film. Qui, alors ça a été trouvé,
C'était 127 heures.
127 heures.
Enfin, c'est Bruno qui l'a trouvé en premier. Quand même, voilà, il faut rendre à César ce qui est à César.
Voilà, et j'espère les auditeurs aussi ont trouvé. Enfin, ce qui était simple après, c'était le petit bruit, effectivement, de la roche qu'il est en train de... Non, pas tout à fait, pas encore. Il se l'assied pas, là. Alors, on passe à quelque chose d'un peu plus tropical.
Je sais que ce n'était
la
pas
plage.
Prévu. Mais finalement, je me suis décidé à laisser un double de la carte. Ce n'est peut-être pas ce que j'ai fait de mieux dans ma vie, mais... Je me disais qu'il était dans la nature d'un voyageur de faire circuler l'information. Mais la vérité, c'est que... Comme tout le monde, j'avais peur de l'inconnu. Je n'arrivais pas à rompre complètement les amarres.
Ah, attention!
Marine parlait des voyageurs qui allaient donc en Thaïlande.
Oui,
et voilà.
Sur les plages super touristiques, comme DiCaprio dans le film.
C'est pour ça qu'il est déçu et donc après il a envie d'autre chose.
Oui, c'est vrai, mais c'est vrai. En même temps, je l'ai vu environ il y a 20 ans quand même, ce film. Donc,
ça commence à dater. Il n'est pas sorti il y a 20 ans quand même.
Ah, pas loin. Il est sorti peu de temps après Titanic, donc en 99, j'ai
En 2000. Oui, effectivement. Donc on entendait effectivement la voix, cette fois-ci, de Leonardo DiCaprio. Ça peut aider, parce que là, on est en train d'écouter des versions françaises. Et là, c'est vraiment la voix qui est tout le temps utilisée pour Leonardo DiCaprio. Ça pouvait aider. Et effectivement, quand j'ai dit tropical, eh bien, c'est la Thaïlande. C'était La Plage, un des plus gros succès de Danny Boyle, avec plus de 2 millions d'entrées ici en France. Et là, c'est tout le contraire. C'est un de ses plus gros bides qu'on va entendre en extrait.
Et le gouvernement, qu'est-ce qu'ils font?
Il n'y a pas de gouvernement.
Bien sûr qu'il y a un gouvernement. Il y a toujours un gouvernement, ils sont dans un bunker ou un bombardier.
Non, il n'y a pas de gouvernement, pas de police, pas d'armée. Pas de télé, pas de radio, pas d'électricité. Tu es la première personne non contaminée qu'on ait vue en 6 jours.
Où est ta famille?
Tous morts, pareil pour Selena.
Les tiens seront morts eux aussi.
Non. Il faut que je trouve mes parents. Ils vivent à Deptford. Je peux y aller à pied.
Tu jettes un coup d'œil et tu repars, c'est ça?
Ouvrez-moi cette putain de porte!
Tu ne reviendras pas.
Si!
Ce ceux qui partent ne reviennent pas.
Donc ça a été trouvé, Manu.
28 jours plus tard.
Voilà, donc un film qui n'a pas forcément très bien marché lors de sa sortie en salle, hein, 196 722 entrées seulement en France, mais beaucoup de personnes quand même l'ont vu ensuite, ne serait-ce qu'en DVD. Et puis la suite a très bien marché, une suite produite par Danny Boyle, et la scène d'ouverture a été faite par Danny Boyle, mais pas le film en entier.
Pour un film d'horreur, c'est pas si mauvais score que ça, un film de...
Effectivement, de genre. Voilà, oui,
de genre.
Ouais. Tout à fait. Et alors, j'ai pas mis dans ce blind test Slumdog Millionaire, qui a été son plus franc succès en France avec 2 703 254 entrées. Voilà, ainsi s'achève.
Et Trans aussi, c'est dommage quand même.
Et Trans, mais.
Parce que c'est un super
film. Oui, mais non, ça. Je tentais de l'oublier celui-ci et je pense qu'il a fait un petit bide. Voilà. On passe à la suite. Et la suite, c'est la comédie roumaine.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Alors, durant cette période où les comédies françaises squattent les écrans pour y rester un petit moment, les Tuches 2 ont fait 1 502 557 entrées, on va penser que je suis obsédé par ça. Ils ont fait ça la première semaine. La Tour 2, Contrôle Infernal, a bien démarré également. Et puis, Joséphine Sarandi, Feel Good Movie, eh bien, devrait s'en tirer tout pareil. Donc, difficile de faire de la place à une comédie dissonante venue de Roumanie, Le Trésor. Et pour filer l'analogie et bien faire entendre ce qui distingue les comédies françaises du film de Corneliu, Pour Umboyou, eh bien, je vais me servir de la seule musique qui intervient à la fin du film et se poursuit tout le générique. Alors, vous connaissez sûrement ce tube de 1984 délivré par des Autrichiens moustachus. Life. Alors évidemment, Marine, tu n'étais pas née. Manu, tu commençais à avoir un duvet, une petite moustache. C'était donc en 84 et Opus chantait la vie et tout le monde applaudissait, Béa. Et dans mon analogie, eh bien, c'est ça, la comédie française. Alors passons maintenant à la comédie roumaine. Life. Life is life. Life. Alors, rythmique militaire, grosse voix, c'est une interprétation tout en nuances du groupe slovène Les Bacs, effectivement, Manu l'avait trouvé, intitulant le morceau Opus Dei. Alors, eux, ils l'ont rebaptisé comme ça. Il y a peu de chances que ce morceau rallie les inconditionnels de l'autre. Pris au premier degré, bien le morceau est une incursion fasciste dans la pop. Pris au second degré, il transfigure la naïveté d'une époque et y place une dissonance. Eh bien, Le Trésor, qui est en fait une coproduction franco-roumaine, Arte est derrière tout ça, est autre chose qu'une fiction à gag, qu'une production taillée pour le rire. C'est une fable patiemment construite, auscultant la société roumaine où le rire est discret et la douceur bien présente. Alors nous sommes à Bucarest avec Costi. Il tente de raconter l'histoire de Robin des Bois à son fils de 6 ans, mais il est interrompu en fait à plusieurs reprises par son voisin qui vient lui raconter qu'il n'a plus d'argent, mais qu'il sait comment en obtenir. Il est quasi certain que son grand-père a enterré un trésor dans le jardin de la maison familiale avant l'arrivée des communistes. Mais il faut financer l'opération de déterrage en louant un détecteur de métaux, et c'est là que Costi intervient. S'il dit oui, il a la moitié du trésor, ce qui est plutôt tentant. Alors, que peut-on dire sur Le Trésor ? Oui, il accepte de financer l'opération, que ce ne sera pas simple, oui, qu'ils vont creuser. Vont-ils trouver quelque chose ? Eh bien, c'est tout le suspense du film. D'autant que pour nous titiller, eh bien, le réalisateur jette le doute sur l'individu qui passe au peigne fin de jardin et sa capacité à servir de ses instruments parce qu'il a... Il a un détecteur de métaux qui est quand même assez compliqué, puis il en a un autre qui est un peu plus simple. Alors on nous apprend aussi qu'en cas de découverte d'un trésor, eh bien on doit prévenir la police qui peut déterminer qu'il s'agit du patrimoine roumain, auquel cas eh bien les découvreurs n'ont plus que 30%. Des chiffres, il en sera question entre le taux des prêts de chaque protagoniste, les éventuelles commissions et taxes en cas de recherche fructueuse. On est délibérément placé dans un monde où l'argent compte et le trésor est une part fantasmée, un imaginaire, un monde perdu. D'autant que, comme dans certains westerns, eh bien, on se demande quelle terre appartient à qui et depuis quand, et aussi où situe la limite entre homme de loi et criminel. Alors, au passage, Corneliu Porumpoiu, qui a signé le scénario, évoque la période de la révolution de 89, le communisme et également la révolution de 1848. Il relie donc la fable qu'il nous présente à l'histoire de la Roumanie. Alors, ça n'est pas la franche rigolade, mais Le Trésor a une autre saveur qu'une satisfaction immédiate. Il compose un conte moderne, un peu désenchanté, avec une mise en scène aride. Il n'y a pas de musique ici et beaucoup de plans fixes. Et quand on bouge, eh bien, c'est parfois dans la pénombre. Il y a tout un plan séquence où la caméra est placée dans le véhicule et il rentre la nuit. Voilà. Donc, c'est assez frustrant par ailleurs. Alors après un démarrage tout en douceur, on se laisse prendre par cette petite comédie décalée. Et pour terminer avec les analogies entre les comédies mainstream et les autres, eh bien prenons l'exemple d'Altra de Benoît Delépine et Gustave Kervern. À la base, on a ça. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Alors c'est léger, ça passe partout, c'est fredonné par Barine, mais on a aussi ça. Sunny. Voilà, c'en est terminé pour ces analogies. Donc le trésor, eh bien, c'est sorti déjà depuis le 10 février.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Les délices de Tokyo, un film qui est sorti le 3 février, mais qui semble bien marcher en fait, qui a un petit succès d'estime et certainement le plus gros succès de la réalisatrice. Jusqu'ici, ces films étaient très confidentiels. Alors Tokyo, une vieille femme va tenter de convaincre Sentaro, un vendeur de dorayakis, des pâtisseries traditionnelles japonaises, de l'embaucher. Alors, ce qui nous vaut d'emblée une séquence de comédie plutôt savoureuse, où Toku accepte de travailler au rabais. Alors, bien sûr, elle ne fait pas l'aumône. Sa démarche est ailleurs, elle cherche autre chose de plus secret. Alors Sentaro, personnage peu expansif et souriant, cachant d'emblée une infinie tristesse, finit par accepter. Et surprise, Toku possède le secret d'une pâte exquise à base de haricots rouges qui permet à la petite boutique de devenir un lieu incontournable, attirant les clients attirés par les délicieux dorayaki. Alors, le film débute comme une charmante chronique sociale intergénérationnelle qui dégage un charme indéniable, mais un peu vain. Mais rapidement, Naomi Kawase révèle l'enjeu et l'ambition de son film qui va progressivement glisser de la comédie légère au drame sombre et touchant. Alors, Toku a les doigts difformes, ce qui ne manque pas d'intriguer Sentaro, mais aussi une jeune lycéenne, troisième personnage important du film. La vieille femme a eu en fait la lèpre et vit dans un quartier de Tokyo qui a été mis en quarantaine quelques décennies plus tôt. La propriétaire de l'échoppe rend visite à Sentaro pour demander de licencier Toku. À partir de là, le récit décolle, les blessures s'ouvrent et la nature du solitaire Sentaro, homme blessé au passé encombrant, se dévoile. Alors, la beauté des délices de Toku, en dépit d'un scénario parfois mécanique, surécrit, passant avec une certaine virtuosité d'un genre à l'autre, mais sans vraiment surprendre, réside dans la mise en scène gracieuse, fragile de la cinéaste, que j'avais perdu de vue depuis son très très beau film qui datait de 2004, Chara. La caméra très agile enveloppe les personnages, capte l'environnement avec beaucoup de sensibilité. Les délices de Tokyo, c'est moins une réflexion souvent convenue sur la mort et la maladie qu'un beau portrait de trois individus issus de générations différentes qui vont sortir de leur solitude. Alors,
excusez-moi,
je suis un étranglement direct. On l'a, ça y est.
Non, tout va très bien. Alors, triste et solaire, ce mélodrame intime évoque le temps qui passe, les souffrances du passé et le monde d'aujourd'hui devenu cynique et sans âme, symbolisé par le comportement odieux, il est vrai, de la femme du patron. Alors la réalisatrice s'engouffre parfois dans un mysticisme de pacotille, une vision un peu naïve et panthéiste de l'existence, mais elle livre une œuvre pétrie de tendresse et souvent juste et touchante. Et puis le film marche très très bien, c'est pas très étonnant, c'est son film le plus commercial et accessible.
Alors, on se demande. Il est passé aussi sur Cannes, non ? Il est passé sur le festival.
Oui,
2015.
Il a été dans un certain regard, oui, dans une section parallèle, il avait été sélectionné.
Et on s'est demandé si on pouvait dire Toku au lieu de Toku.
Parce que... Ouais, Toku, Toku.
Et... On sait pas.
Toku. Je suis pas japonais, donc.
En tout cas, ça nous a fait beaucoup rire.
Oui, voilà. En plus, t'as
parce que j'aurais pu dire dans Toku, c'est ça, c'est.
Voilà, par exemple. Et en plus, t'as failli ne plus respirer, et là. On aurait été dans une phase de radio-vérité. Allez, c'est parti.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
Et on termine léger, hein.
Et oui, donc, quoique, pas trop, ouais. En fait. Et donc, on poursuit, on te finit avec Ami Public. Léo est un jeune homme normal, à ceci près quand même qu'il a la coupe de Kev Adams et son charme ravageur. Un mec normal qui ne fait rien sans sa bande de potes avec qui il passe son temps à faire des vannes. D'ailleurs, en fait, il fait rien tout court, puisque le film ne prend même pas la peine de préciser s'il fait des études ou s'il a un travail. Bon bref, déjà, ça commence bien. Le hic dans tout cela, c'est que son jeune frère est atteint d'une leucémie et qu'il ne lui reste plus longtemps à vivre. Afin de rendre ses dernières semaines magiques, Léo décide de lui organiser un faux braquage de banque. Grâce notamment à l'un de ses amis banquiers qui accepte de mettre sa banque à leur disposition. Mais voilà, rien ne se passe comme prévu. La bande de braqueurs amateurs braque par erreur une vraie banque et se retrouve pourchassée par la police. Il est trop tard pour faire marche arrière. Désormais, ils seront les braqueurs au grand cœur. Ils seront les amis publics.
Et un, et deux, et trois, let's go !
Mon frère va mourir d'un cancer.
Merde, c'est grave ?
Faut qu'on réalise son rêve. On va organiser un faux braquage. Il en saura rien, juste de quoi le faire kiffer.
Un braquage, ça dure entre 5 secondes et 3 minutes.
Ouais, c'est ça, comme dans Hit.
Mon nom est Léo Pérez.
Je suis un Robin des banques. Nous sommes non-violents. On a décidé de braquer les banques pour indemniser 17 familles. J'entends à la télé que les flics cherchent un gamin chaud.
Mais vous n'avez pas honte. Ils ont pas déjà assez souffert comme ça, ces mômes.
Alors, est-ce que vous savez combien d'entrées a généré Kev Adams juste au cours des deux dernières années? Et juste en France, hein, évidemment, étant donné que son public est quand même exclusivement français.
Il a fait deux films, c'est ça?
Non, il en a fait quand même un petit peu plus en deux
plus,
ans.
Plus, ah bon?
Oui, mais ouais. Enfin, c'est vrai qu'il... Voilà.
J'en ai vu.
Alors, en deux ans de carrière seulement, il a attiré plus de 15 millions de spectateurs. En gros, en fait, il ne sait pas ce que c'est que de faire un film avec moins de 1 million de spectateurs, en fait. Il ne sait pas ce que c'est. Hein. Il sait toujours 1 ou 2 millions au minimum, voire 7 ou 8. Voilà, donc avec Ami Public, eh bien, Kev Adams entame un virage dans sa carrière, un virage ambitieux et qu'il maîtrise pas trop mal. L'écriture du film à laquelle il a participé lui laisse suffisamment de vannes pour ne pas perdre son public, tout en lui donnant une partition un peu plus dramatique à composer. Bon, ce qui ne marche pas tout le temps, hein, il faut bien le dire. Alors Kev Adams est fan de Leonardo DiCaprio, et il a quand même encore un peu de chemin à faire pour atteindre son niveau de jeu. Néanmoins, même si les premières scènes font très peur au niveau de la direction d'acteur, du rythme et de la mise en scène, le film prend un assez bon tournant dès que l'action commence et malgré son sujet très casse-gueule. Ceux qui s'en sortent le mieux quand même, et c'est important de le souligner car Kev Adams ne laisse pas beaucoup de place aux autres, ce sont eh bien, les seconds rôles, entre autres John Elijam, comédien et co-auteur, et Edouard Pluvieux, donc le réalisateur qui signe ici son premier film. Alors sachant que les comédiens et le réalisateur sortent tous de la série Soda, série à succès pour ados, il faut reconnaître qu'ils s'en sortent mieux que certains comédiens et cinéastes soi-disant aguerris, tels qu'on pouvait les voir dans Turf ou dans Les Invincibles. Oui, je ne m'en suis toujours pas remise. Alors, on apprécie également l'humour bien noir, hein, qui n'hésite pas à rire de la maladie, et ça, c'était un pari risqué et qui est plutôt réussi, même si quand même parfois on étouffe un peu sous les bons sentiments. Le problème, en fait, du film, c'est que l'on sent beaucoup trop l'opération com de Kev Adams, qui est actuellement en grosse tournée promo, surtout les médias de France, des médias sur lesquels il répète qu'avec ce film, il va apprendre aux jeunes à ne plus avoir peur de la maladie, à ne plus se détourner des enfants malades qu'il veut montrer comme des héros et non comme des victimes, sauf que ici, ce ne sont pas eux qui sont érigés en héros, c'est juste lui en fait. Enfin voilà, clairement, c'est vraiment un film à sa gloire pour prouver qu'il sait un peu jouer autre chose que des rôles comiques. Mais bon, le pire, c'est que le film, il va sans doute marcher. Il est loin d'être vraiment, vraiment mauvais. Et si vous faites partie du public adulte, ça vous fera sans doute ni chaud ni froid. Mais si vous avez moins de 18 ans, bah vous allez adorer. Hein. Alors par contre, ça serait quand même bien qu'il y ait des experts en cancérologie pour aider les scénaristes quand on parle de ça. Parce qu'il y en a un peu marre, en fait, qu'on voit des cancéreux avec des sourcils dans les films ou avec des crânes où on voit bien qu'en fait, ils ont encore leurs cheveux en dessous. Enfin, voilà, ce genre de choses, ce n'est plus possible, quoi.
Vous prendre des vrais cancéreux.
Bah voilà, il faut en prendre des vrais, quoi, tout simplement. Pourquoi pas? Enfin bref, voilà. Donc c'était Ami Public de Edouard Pluvieux avec Kev Adams et ça sort cette semaine.
Le 17 février. Et on va terminer ce cinérama avec un film qui n'est pas du tout dans le temps de tous dont on a parlé aujourd'hui.
Non, puisque Marine, elle parlait de la grossesse qui inspirait beaucoup les comédies françaises actuelles, mais qui là inspire un film pas vraiment, pas très marrant en fait. Hein, ça s'appelle Les Innocentes. Hein, le film se passe en Pologne à la fin de la guerre en 1945 dans un couvent où des nonnes tombent enceintes les unes après les autres. Hein, et donc démunies, ces religieuses font appel à une jeune femme athée et communiste qui travaille à la Croix-Rouge pour les aider. Alors le traitement un peu lisse en apparence, elle mérite au moins de pas passer à côté du sujet, de proposer une belle réflexion, je trouve, sur la foi, ou plutôt sur le glissement de la foi vers l'humanisme. C'est un film que je trouve assez juste et une très bonne surprise de d'Anne Fontaine. Il y a une mise en scène très belle, très épurée, et notamment une photographie qui est magnifique.
Très blanche, non,
très,
hein, c'est
très
ça
blanche, voilà, oui. Qui s'y situe très bien les paysages naturels polonais, puisque le film se passe en hiver et dans la neige, globalement. Et non, c'est un beau film. Hein.
Ce qui est très étonnant, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de copies quand même. J'ai trouvé ça assez audacieux.
Je pense que ça vient du fait que c'est Anne Fontaine qui est une cinéaste un peu mainstream. Enfin, du moins, ses films ont un certain succès en France.
Et elle a pu donner dans la comédie. Hein.
Mon pire cauchemar. Voilà.
Que je n'ai pas trouvé exceptionnel avec Nathalie Baye. Non, c'est ça.
Bon Appelvord, c'est
et
ça
et Bon Appelvord, ouais. Voilà. Ainsi, c'est chef cinéma.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
La semaine prochaine, nous aurons une interview débusquée par Marine.
Oui, moi je poursuis mon cycle cinéma d'auteur, puisque je vous parlerai de Pattaya, la nouvelle comédie de Franck Gastambide.
Et puis, eh bien, on pourra parler aussi de The Revenant.
Et de Ave César aussi, oui. De nouveau film des frères Cohen.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Cinérama.
Il n'y a que des combines, il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.